Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On est sur Europe 1, oui, vous êtes, nous sommes tous ensemble sur Europe 1 et on écoute le monde changer.
Il est 8h sur la radio ouverte.
Quand est-ce que cet essoufflement, il va s'arrêter? Et quand est-ce que je pourrai enfin respirer normalement et plus avoir à penser à ce virus?
Il arrive vite et il met du temps à partir, le Covid-19. Même dans des formes légères, la convalescence est longue. Didier Raoult prédisait une disparition du virus pour des raisons étranges. D'ici quelques semaines, l'Agence régionale de santé remet les points sur les informations.
Non, l'épidémie de coronavirus n'est pas en train de disparaître. Rien que dans la journée d'hier, 481 nouveaux cas ont été enregistrés.
Vélo, boulot, dodo, après le confinement, va-t-on nous inciter à pédaler pour éviter la promiscuité des transports en commun? C'est une piste cyclable, évidemment. Et puis, eux aimeraient bien se dégourdir les réacteurs. Les avions aussi ont du mal avec le confinement. Leurs roues doivent être régulièrement tournées pour ne pas s'abîmer.
On utilise un cric, comme pour une voiture, pour pouvoir régulièrement éviter que cette carcasse de la roue ne puisse s'endommager.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Gabriel Stegg, coprésident du comité de pilotage recherche Covid-19 de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Vous dialoguez avec lui ensuite, vous posez vos questions. Personnel soignant en particulier, je vous attends ce matin à partir de 8h30, 3921 et le hashtag Radio Ouverte à 8h45. Bien sûr, Nicolas Cantelot et sa revue de presque. Bon réveil, il est 8h02 et nous sommes tous ensemble donc sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On ne les compte pas chaque soir, ils n'ont pas besoin d'être intubés, mais les malades de forme légère du coronavirus sont des dizaines de milliers, restés chez eux. Le chemin pour se remettre de la maladie est parfois très long.
Même après plusieurs semaines, certaines douleurs, certaines gênes persistent, comme chez Laurent, que Victor Delande a joint pour Europe 1.
J'aimerais quand même savoir quand est-ce que cet essoufflement il va s'arrêter et quand est-ce que je pourrai enfin respirer normalement et plus avoir à penser à ce virus?
Laurent a contracté le coronavirus il y a pourtant un mois. Entre la fatigue, les problèmes respiratoires et les pressions sur le thorax, il est inquiet. Autre symptôme qui persiste chez certains patients, la perte du goût et de l'odorat. Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, livre un début d'explication.
L'anosmie et l'agnosie, qui sont des signes gênants mais pas graves en soi, il semble qu'effectivement ils soient assez durables et probablement liés à des atteintes neurologiques.
Plus de 500 chercheurs de 38 pays ont lancé hier une vaste enquête mondiale pour mieux comprendre ce phénomène. Autre étude lancée, cette fois en France, sur des lésions cutanées. Marie Bello-Barry, présidente de la Société française de dermatologie, a relevé
une fréquence anormale de certaines manifestations à type d'engelure, donc c'est-à-dire des lésions un peu violacées au niveau des extrémités, des orteils, des doigts. C'est peut-être lié au Covid, mais il faudra encore le prouver.
Il faudra donc multiplier les tests pour faire le lien entre ces symptômes et le coronavirus. Mais pour rassurer les patients infectés, il y a déjà plusieurs semaines, aucun cas clinique de rechute grave n'a été enregistré à ce jour.
À l'hôpital, une bonne nouvelle hier soir. Pour la première fois, le nombre total de patients Covid-19 est en baisse. Et dans les services de réanimation, cela fait 7 jours d'affilée que le nombre de patients diminue.
Prudence pour autant. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l'a d'ailleurs dit hier au sujet du confinement. On ne va pas passer du noir au blanc, on va passer du noir au gris foncé. Voilà ce qu'il dit. Prudence aussi affichée par les autorités sanitaires du Sud-Est.
Oui, alors que le professeur Didier Raoult indiquait que l'épidémie était en train de disparaître à Marseille, l'Agence régionale de santé lui a répondu. Nathalie Chevance.
Pas de pronostic, pas d'enthousiasme prématuré. Voilà la mise au point de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur après les affirmations du professeur Raoult. Une réponse du tac au tac par vidéo interposée du directeur général Philippe de Mester.
Non, l'épidémie de coronavirus n'est pas en train de disparaître. Rien que dans la journée d'hier, 481 nouveaux cas ont été enregistrés. 1847 personnes sont à l'hôpital pour ce virus.
Bataille de chiffres, l'ARS avance ceux au niveau régional, le professeur Raoult ceux enregistrés au sein de son IHU en nette diminution d'après lui. Et c'est vrai que globalement, depuis quelques jours, le nombre de personnes qui entrent à l'hôpital est moins important que ceux qui en sortent. Les courbes s'atténuent, souligne le professeur Jouve, porte-parole du collectif Interhôpitaux. Pour autant, on ne peut pas lâcher comme ça sur les réseaux sociaux que l'épidémie est terminée.
Il faut faire attention à la façon dont on formule les choses, mais surtout pas que les propos de Didier Raoult soient interprétés comme c'est fini. Rendez-vous ce week-end à la plage pour faire un barbecue. L'affaire n'est pas du tout malheureusement conclue. On meurt encore aujourd'hui en masse. Le personnel soignant et non soignant est à bout de souffle à la PHM.
Et pour éviter une éventuelle deuxième vague épidémique, l'ARS insiste bien pour l'instant sur la nécessité de rester confiné. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Autre chiffre qu'à Europe 1, nous souhaitons aussi donner chaque jour le nombre de patients sortis guéris des hôpitaux depuis début mars, 30 955. Ils étaient plus de 2000 rien qu'hier.
Si je vous dis 11 mai, tout le monde a en tête qu'il s'agit de la date de début du déconfinement maintenant. 11 mai, bien sûr. Et même si depuis l'annonce du président, des ministres ont précisé que c'était un objectif plus qu'une certitude, la pression est au maximum pour tenir ce délai. Les informations de Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Il faut réussir le 11 mai. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a lancé hier lors du Conseil des ministres depuis l'Élysée. Réussir la préparation du déconfinement, rajoute un ministre présent. L'objectif que le chef de l'État a donné lundi soir ne peut être raté. Emmanuel Macron a parlé d'un cap à franchir. Sauf que les questions sont encore nombreuses. L'entourage du président le reconnaît. Le 11 mai ne sera pas un retour à la normale. Tout sera progressif. En coulisses à l'Élysée, on le sait, le conseil scientifique a même fait part de ses réserves sur la réouverture des écoles le 11 mai. Mais un conseiller l'affirme, il n'y a pas eu de contre-indication non plus. La décision est assumée, elle est avant tout politique. Hier, devant ses ministres, Édouard Philippe a rappelé ses trois objectifs. Lutter contre la propagation, réarmer économiquement le pays et réussir ce déconfinement. Le gouvernement qui a désormais moins de 2 semaines pour rendre son plan, un objectif tellement ambitieux qu'un conseiller ministériel l'avoue. Le 11 mai, c'est un pari. Si jamais on n'est pas prêt, j'ai très peur d'un effet boomerang.
Encore un recours examiné par le Conseil d'État aujourd'hui en lien avec l'épidémie. L'association Respire réclame une réglementation sur les épandages agricoles car selon elle, ils causent une pollution atmosphérique qui aggrave les risques liés au virus.
À propos de qualité de l'air, depuis début mars, les compagnies aériennes ont arrêté presque tous leurs vols mais les avions doivent continuer à être bichonnés. Pour Europe 1, Aurélien Fleureau a recueilli les confidences de ceux qui veillent sur ces appareils en sommeil.
On a quasiment toute la flotte d'Air France qui aujourd'hui est arrêtée de vol, 180 machines sur 220 à peu près.
Les pistes sont devenues des parkings. Plus de 120 appareils alignés à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le reste est réparti entre Orly et Toulouse, explique Géry Mortreux, directeur général adjoint d'Air France en charge de la maintenance, dont la mission principale est désormais de protéger des avions qui ne restent jamais immobilisés aussi longtemps.
Protéger l'avion de différents phénomènes, de la corrosion, de l'apparition de bactéries par exemple dans le carburant, protéger par exemple les systèmes de sondes qui sont utilisés par les pilotes en appliquant dessus des protections pour éviter que des insectes viennent faire leur nid et viennent, lorsqu'on reprendra les opérations, perturber les bonnes informations pour les pilotes.
Autre opération indispensable en ce moment, faire bouger l'avion, démarrer le moteur, mais aussi faire en sorte que les roues restent opérationnelles.
On doit faire tourner les roues. Alors soit on déplace l'avion, mais ce qui n'est pas toujours possible en position de parking, soit on utilise un cric, comme pour une voiture, pour finalement soulever le train d'atterrissage, pour pouvoir régulièrement éviter que cette carcasse de la roue ne puisse s'endommager.
Les avions resteront au sol entre 1 et 3 mois, 150 heures de maintenance pour chaque appareil. Pour s'en occuper, 1000 salariés d'Air France se relaissent, 8 fois moins de personnel qu'en temps normal.
Au retour du porte-avions Charles de Gaulle dimanche à Toulon, on savait que 50 marins étaient positifs au Covid-19. Tous ont été testés depuis et sur 1767 marins, presque 700 sont positifs et encore, il manque 30% des résultats.
Bonjour Pierre Cerne.
Bonjour.
Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, président du club des villes et territoires cyclables, à la tête d'une mission confiée par le gouvernement destinée à favoriser les déplacements à vélo. Avec vous, on écoute Le Monde changer ce matin. Est-ce qu'il s'agit de profiter du moment du déconfinement pour repenser le vélo dans la ville ou simplement d'une mesure sanitaire pour ne pas qu'on s'entasse dans les transports en commun à la mi-mai?
J'ai envie de dire c'est un peu des deux et aucun des deux. D'abord, enfin, ce que je veux préciser, c'est que je ne parle pas au nom du gouvernement, que je suis un président d'association qui va essayer de coordonner des réponses en matière de vélo à la question des déconfinements et que par exemple je suis très très dubitatif sur le fait de déconfiner vite et dès le 11 mai. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où des activités vont reprendre, le vélo va très probablement, et on le voit déjà en fait, être une solution de déplacement qui va être très adaptée en fait à la situation, parce qu'il y a la distanciation sociale qui est quasi automatique quand on est à vélo, que beaucoup de gens manifestement ne prendront pas les transports en commun à la reprise par crainte,
par
mesure de précaution, évidemment.
Pas envie d'être les uns sur les autres. Et de toute façon, vu ce qu'on voit dans les endroits où le déconfinement a lieu et avec des transports en commun, il y a des mesures de distanciation qui sont prises avec suppression, par exemple, d'un rang sur deux dans les bus en Pologne. Et donc, ça veut dire que de toute façon, on pourra pas prendre.
D'accord.
Il y aura pas la place pour tout le monde. Et si on veut pas que ça implique que ce soit tout le monde dans des voitures, il faut bien qu'on pense à d'autres modes de déplacement. Et le vélo est particulièrement adapté à ça.
On parle de fermeture d'axes routiers, hein, de boulevards même en ville, pour faire de la place au vélo, Pierre Cerne, pour être concret.
Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle pour l'instant déjà de tester en fait des ce qu'on appelle des pistes cyclables temporaires ou des aménagements temporaires qui permettent de voir en ce moment par exemple il n'y a pas énormément de voitures, il y en a beaucoup moins qu'avant, et pourtant il y a des gens qui vont travailler et plus de gens qui vont travailler en vélo qu'il y en avait avant. Et par exemple il y a des hôpitaux qui sont très mal desservis par des pistes cyclables parce qu'ils sont souvent très excentrés et pour lesquels pourtant il y a beaucoup de soignants qui ont adopté le vélo comme mode de déplacement. Il faut dans ces cas-là qu'on invente très vite des aménagements cyclables avec des plots, des barrières, de la signalisation, quelque chose de très rapide, très souple, et ça préfigure en fait ce qui pourrait se faire. Il ne s'agit pas forcément de fermer totalement à la circulation automobile des axes entiers, mais de prévoir des axes cyclables sur des voiries où pour l'instant il n'y en a pas ou il y en a
où on
trop
en
peu.
Où on en manque en tout cas. Merci Pierre Cerne, conseiller régional d'Île-de-France, président de l'association Ville et Territoires Cyclables, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct.
Amazon se défend alors que la justice a condamné l'entreprise mardi. Son patron pour la France, Frédéric Duval, le dit sur Europe 1 ce matin: nous appliquons toutes les demandes que nous font les autorités sanitaires. La décision de justice me rend perplexe, pardon. Je la respecte et je fais appel.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, une expérimentation sur le plasma comme traitement au coronavirus. C'est à New York et nous y sommes dans un tout petit instant sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 à 8h13. Le monde entier cherche des traitements contre le Covid-19. Aux États-Unis, des chercheurs ont commencé à en tester un à base d'anticorps de personnes guéries du coronavirus.
Donald Trump en a même parlé dans son point presse quotidien, expliquant que des milliers d'Américains guéris donnaient leur sang pour la recherche. Xavier Yvon est à New York pour Europe 1.
Diana Berendt a été l'une des premières malades à New York, l'une des premières à guérir, et il y a quelques jours, la première a donné son sang avec ces fameux anticorps qui ont vaincu le virus. Nous, les survivants, nous avons des super pouvoirs, dit-elle. Nous avons dans notre corps le secret de ce mystérieux virus. Un secret que voudrait percer l'étude lancée par l'Université de Columbia. C'est le docteur Eldad Hodd qui a récupéré le plasma de Diana pour le transfuser à des groupes tests, des malades critiques, des malades légers et des gens en bonne santé. Ce n'est pas une idée nouvelle, explique ce spécialiste des transfusions. Ça a déjà été essayé il y a 100 ans pour la grippe espagnole ou pour le SRAS dans les années 2000, mais à petite échelle. Il y avait eu des résultats, mais pour savoir si le traitement est viable, il faut une étude complète. On essaye d'avoir la réponse le plus vite possible, explique le docteur Hodd, et si ça marche, alors l'industrie prendra le relais pour en produire le maximum. Il faudra pour ça une énorme quantité de plasma, et Diana a déjà créé une association pour appeler les autres anciens malades comme elle à donner un peu de leur super pouvoir. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Revenons en Europe à présent avec ce pays tout proche et qui fait figure d'exception. Le Portugal, presque miraculeusement épargné par le coronavirus.
Et pourtant, Vincent Hervouette, le Portugal n'a pas pris les mesures drastiques de certains pays d'Asie.
On explique les succès de la Corée, de Taïwan, du Vietnam sur l'épidémie par le quadrillage social et l'héritage confucéen. Au Portugal, il n'y a pas de test massif, pas de big brother numérique qui piste les contaminés, et c'est la Madone de Fatima, pas Confucius, que l'on vénère. Mais la réussite des Portugais vaut bien celle des petits dragons asiatiques. Il y a 10 fois moins de malades chez eux qu'en Espagne. Et surtout, c'est le chiffre à retenir, leur taux de mortalité de 3%, alors qu'il est de 10% en Espagne. C'est d'autant plus frappant que la population est aussi âgée qu'en Grèce et que les hôpitaux sont les pires d'Europe. 4 lits en soins intensifs pour 100 000 habitants. En Espagne, il y en a 9. En Allemagne, 30. Mais c'est justement parce qu'ils se savent vulnérables que les Portugais ont pris des mesures draconiennes. 200 personnes étaient infectées et le gouvernement fermait les écoles. 400 malades et chacun rentrait chez soi.
Restrictions assez rapides, mais pas excessives non plus, Vincent.
Le confinement est assez lâche, on a le droit de faire ses courses, de faire du sport, les chantiers et les usines restent ouverts, mais la plupart des Portugais sortent une fois par semaine au maximum. Sur le plan politique, même retenu, c'est l'union sacrée derrière le gouvernement. La prudence est la vertu de ceux qui commandent, ça pourrait être la devise des Portugais, mais ça, c'est un proverbe de Confucius.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8 heures d'Europe 1. On va terminer le journal en parlant intégralement en allemand. Bon, on va peut-être pas quand même mettre quelques sous-titres. Alors, quoique des sous-titres pour La Reine des Neiges, dit Eiskönigin, serait-ce nécessaire?
En tout cas, en Allemagne, l'idée d'un cinéma en drive a été lancée. Dans votre voiture, vous vous garez devant l'écran géant. Hier, c'était donc La Reine des Neiges 2. Notre correspondant en Alsace, Arthur Mbaché, est allé faire un tour de l'autre côté de la frontière.
Alors, me voilà garé bien en face de l'écran sur lequel il est écrit que pour entendre le son, il faut se brancher sur la station de radio 105.9 Autokino, le ciné en voiture.
Anna, Elsa.
Ah, Anna, Elsa, c'est bien La Reine des Neiges. Alors, je vais demander à mes voisins de voiture juste à côté ce qu'ils en pensent.
On s'ennuie avec les enfants à la maison, c'est long. Alors dès qu'on en a entendu parler, on a décidé de venir ici.
Est-ce que vous croyez que c'est sûr?
Yes.
Ben voilà, bonne réponse. Elle vient de me remonter la vitre sous le nez sur justement les précautions prises en ces temps de virus. Écoutez Johannes, l'organisateur.
Les fenêtres doivent rester fermées. Nous, on scanne le ticket à travers la vitre. Il n'y a pas de contact entre les gens.
Alors je voulais vous donner le programme de ce mercredi, mais ça sert à rien. Côté français, on vous laissera pas prendre la route. Pour ça, essayez de dire aux gendarmes que vous allez à la séance de 17h de Peter Hase, Pierre Lapin, en VF.
Oh, papa.
Offenbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Voilà, et libéré, délivré en allemand, c'est Ich lass los, lass jetzt los.
Oui, on peut le prononcer comme ça, c'est peut-être plus dur à chanter.
Facile.
Je ne vous ferai pas cet affront. François Geffrier, merci beaucoup.